5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce vendredi 19 avril. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Le frère de Mohamed Merah, condamné en appel à 30 ans de prison, il a été reconnu coupable de complicité des 7 assassinats perpétrés en 2012. Les sapeurs-pompiers de Paris ont reçu hier un vibrant hommage à l'Élysée, mais aussi sur le parvis de l'hôtel de ville, après avoir combattu les flammes de Notre-Dame. Week-end de Pâques et début des vacances de la zone C. Beaucoup de monde attendu sur les routes ce week-end, soyez vigilants.
Europe 1.
Un murmure de soulagement sur les bancs des parties civiles hier soir lors de l'énoncé du verdict dans le procès en appel du frère de Mohamed Merah, Abdelkader, 36 ans, qui avait été acquitté en première instance de l'accusation de complicité de crime, a cette fois écopé de 30 ans de réclusion, une peine assortie d'une sûreté des deux tiers. Son avocat, maître Éric Dupond-Moretti, envisage le pourvoi en cassation. Latifa Ibn Ziaten, la maman du premier soldat assassiné, très émue à la sortie du tribunal, a salué la justice.
Merci à la justice. Vive la justice, vive la République. Voilà, je suis très fière aujourd'hui. Je remercie mes avocats. Merci à cette femme, cette présidente. Merci à tous les jurés. Voilà, je suis très fière aujourd'hui. Et que mon fils se repose en paix. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je vivrai avec ma souffrance jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que je ne peux pas la partager. Je suis condamnée dedans. Cette plaie qui sera jamais fermée. Mais la justice, elle est rendue. C'est le plus important.
Latifa Ibn Ziaten, hier soir, après la condamnation d'appel à 30 ans de réclusion contre Abdelkader Merah. Des parents d'élèves et des habitants se sont rassemblés hier soir près de la mairie de Bessens, près de Montauban, après l'incident survenu dans la cour de l'école primaire de la commune. La chute d'un arbre a grièvement blessé deux élèves, évacués en urgence absolue à l'hôpital. L'un a été blessé à la jambe et à la hanche, l'autre à l'abdomen.
Les pompiers acclamés hier après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville.
Une cérémonie organisée pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pendant des heures pour sauver Notre-Dame. Catherine et Ousmane tenaient à être présents pour saluer le travail des pompiers.
Je trouve que ces gens sont exemplaires, tant sur le plan individuel, quotidien. Ce sont des gens qui sont d'une compétence extraordinaire et qui sont d'une réassurance extraordinaire. Je trouve qu'ils passent trop inaperçus finalement. Voilà. C'est eux qui ont été essentiels là-dedans. Donc sur le plan, je dirais, de l'investissement personnel, chacun des pompiers, vraiment, c'est chapeau. Voilà.
J'aimerais que cette union perdure un peu, que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas seulement que l'humain, il y a l'humain bien sûr qui est prédominant, mais il y a aussi ce qui fait l'homme, c'est-à-dire le bâti qui s'est forgé pendant des millénaires, tout ce que l'homme sait faire. Et c'est un respect aussi pour nos ancêtres.
Témoignage recueilli par Justin Morin pour Europe 1. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron a annoncé aux pompiers qu'il recevrait la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Concernant les dons pour reconstruire l'édifice, on a appris que le Comité international olympique allait donner 500 000 euros. Le cardinal de New York a aussi lancé un fonds d'aide qui a déjà atteint plus de 100 000 dollars. Et puis demain, pour la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes, les manifestations aux abords de Notre-Dame sont interdites.
C'est un peu la rançon de la gloire pour l'usine PSA de Rennes.
Oui, les succès commerciaux inattendus de la SUV 5008 ou de la Citroën C5 obligent l'entreprise bretonne à mettre les bouchées doubles. 120 000 véhicules devraient sortir des chaînes cette année. Résultat, certains salariés travaillent le samedi et le dimanche. Travail obligatoire pour tous. Pour un certain nombre de jours fériés, les ouvriers sont exténués. François Coulon.
Objectif, fabriquer 27 voitures toutes les heures. On frôle le sur-régime. Des volontaires sont employés les samedis et dimanches. Beaucoup de jours fériés sont travaillés, obligatoires pour tous. Ça va trop loin, se plaint Céline, 12 ans de maison.
Quand vous faites 6 jours à se lever à 3h30 du matin, c'est énormément fatigant. On en a marre. On n'a plus de week-end, on n'a plus de jours fériés, on n'a plus rien. Il y en a ras-le-bol.
Le travail un lundi de Pâques, ça fatigue certes, mais ça rapporte, plaît Gilles, monteur.
Moi, j'estime que ça vaut le coup. J'ai besoin de travailler puisque j'ai un loyer à payer, j'ai des charges et tout. C'est juste 7 heures et ça me rapporte pratiquement le salaire de 2 jours de travail, pourquoi pas.
La CGT appelle à faire grève ce lundi de Pâques, pas la CFDT majoritaire de Laurent Valli.
Appeler les salariés à se mobiliser sur une journée où on a une majoration aussi importante, hein, beaucoup plus que le légal, je ne suis pas persuadé que ça prenne beaucoup. On est à 175% de majoration, 150 euros en plus, on ressort quand même d'un gel de salaire pendant 6 ans, là, ça fait du bien au porte-monnaie.
Le décollage de la nouvelle Citroën C5 Aircross est spectaculaire. Près de 35 000 commandes depuis janvier. Lourde pression sur les épaules rennaises. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Beaucoup de monde attendu sur les routes en ce week-end de Pâques. Journée classée orange dans tout le pays et même rouge en région parisienne. Ce vendredi coïncide aussi avec le début des vacances de la zone C. Trois alpinistes professionnels de renommée mondiale, deux Autrichiens et un Américain, ont disparu en tentant d'escalader un sommet dans l'ouest du Canada. Les autorités ont lancé des recherches aériennes dès mercredi, mais aucune trace des trois hommes âgés de 36, 35 et 28 ans.
Sortez-les ! La suite des Petits Mouchoirs sort aujourd'hui en Gironde.
Cadeau de Guillaume Canet, le réalisateur, aux habitants du département. Nous finirons ensemble, c'est le titre, sortira partout ailleurs le 1er mai. Dans le film, on retrouve la même bande, François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch ou encore Laurent Lafitte. Stéphane Place a pu assister à l'avant-première dans une commune du bassin d'Arcachon, le décor naturel de cette histoire.
Fin de la projection dans cette petite salle de cinéma d'Andernos. Guillaume Canet et ses acteurs savourent les applaudissements des 200 spectateurs conquis par Nous finirons ensemble, tourné ici, sur le bassin d'Arcachon.
Moi, j'avais pas vu Les Petits Mouchoirs 1, mais honnêtement, très bon film.
On est très très fiers que ça soit tourné chez nous et qu'on puisse faire découvrir aux gens la beauté du bassin.
9 ans après Les Petits Mouchoirs, on retrouve donc Max, l'excellent François Cluzet, dans sa belle maison. Et surprise, sa bande de potes, qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, débarque pour son 60e anniversaire. C'est l'heure des mises au point pour le groupe d'amis, comme l'explique le réalisateur Guillaume Canet.
Je me suis rendu compte qu'à 45 ans, on n'avait pas les mêmes amitiés qu'avant, et que contrairement Petits Mouchoirs, on mettait des petits mouchoirs sur les choses qu'on ne veut pas dire. Bah, à 45 ans, on a moins de temps à perdre et ça nécessite du coup des mises au point. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été un des sujets qui m'ont plu et qui m'ont dit que c'était une bonne excuse pour retrouver les personnages.
Parmi eux, bien sûr, l'ostréiculteur découvert dans Les Petits Mouchoirs, Joël Dupuche.
Et moi, j'ai une règle de base, quand mes potes m'appellent, quelle que soit l'aventure, j'y vais. Moi, la vraie vie, c'est les huîtres et les entractes, c'est le cinéma.
Retrouvailles de potes filmées ici sur le bassin d'Arcachon qui n'est jamais cité. Pas un panneau, pas une indication. Le paradis ne se nomme pas. Andernos, Stéphane Place, Europe 1.
Emmanuel Macron a remis hier soir la Légion d'honneur à Michel Houellebecq lors d'une cérémonie à l'Élysée. L'écrivain figurait dans la liste des promus du 1er janvier.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline que j'aime pour son talent journalistique, sa beauté renversante, mais aussi sa sulfureuse insolence. Comme Nico Saliagas a pu le constater à ses dépens mercredi, alors qu'il se lançait dans une ode à Victor Hugo.
Le mec, il a été exilé, la France l'a renié, il a été conspué, il est revenu en héros.
Un peu comme toi, Nikos.
Elle est vraiment nos limites, c'est pour ça que je l'aime tant. Vous allez manquer Céline Kallmann pendant mes vacances. Ah, vous êtes génial. Vous êtes peut-être viré, mais vous êtes génial.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, à l'occasion de son anniversaire dimanche, elle fêtera ses 93 ans. Fabrice Dalméda enfile sa queue de pie et s'invite à Buckingham Palace pour offrir à la reine Elisabeth II une bougie musicale Leader Price. Et accessoirement, évoquer ses 66 ans de règne.
Bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et si nous faisions un point sur la météo, Céline ? Une belle journée avec cependant quelques bémols.
Oui, c'est vrai. Dans le sud-ouest, par exemple, on aura un petit peu plus de nuages avec un vent d'automne toujours très fort. Le plus gros bémol est pour le nord-est, puisque là, on aura des nuages cet après-midi, un risque d'averse qui pourrait tourner à l'orage et déborder sur l'est de l'Île-de-France en soirée. Partout ailleurs, c'est encore un grand soleil et des températures qui vont avec. Une température estivale, on peut le dire, puisque la moyenne va de 19 à 27 degrés cet après-midi, avec un 24 degrés attendu à Paris.
Merci Céline. Eva Rock, je crois que c'est l'anniversaire de Bernard Montiel.
C'est exact, Mathieu Noël. Et il animait quoi comme émission, Bernard Montiel ?
Et il animait le cercle de minuit.
Exact.
Non, ah, voilà.
Le grand échiquier.
Vidéo gag, c'est ça. Autant pour moi.
Vidéo gag, exactement. Alors on vous a demandé depuis ce matin, 5h, de nous raconter sur Twitter avec le hashtag Europe 1 une situation qui mériterait d'être dans Vidéo gag. J'ai pas compris toutes vos histoires parce que parfois c'est un petit peu compliqué, ou alors je suis pas très très bien réveillée. Mika nous dit...
C'est possible, vu qu'on peut révéler à nos auditeurs non. que vous n'avez pas dormi cette nuit. Vous êtes allé à une fête, une soirée.
Non, pas du tout.
Et vous avez enchaîné directement avec l'émission.
Je travaillais.
Gage de qualité pour vos interventions ce matin.
Je suis encore en tenue de soirée. Mika, par exemple, nous dit « Mon chat est devenu fou, mais comme souvent, mais là, il a couru sur trois murs du salon à la verticale, tel Neo dans Matrix. Hein, » Et il a regretté apparemment de ne pas l'avoir filmé. Et puis Sergio, il dit « Je me suis fermé le coffre de la bagnole sur la tête. C'était drôle, mais douloureux. Heureusement, personne n'a filmé également. » Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous, Eva, vous allez prendre un peu de repos. Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est un journaliste sur la sellette qui nous a rejoint en studio. En effet, hier, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a appelé, furieux, le 39-21 pour dire qu'il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout apprécié que Jérôme Lacroix le taquine sur son accent. Il vous a laissé un message.
On va finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit, croyez-moi.
Jérôme Lacroix, on passe au journal des sports, faites attention à vous.
Si je savais parler allemand comme il parle français.
C'est vrai, ça serait pas mal. À la une, le sport participe à la mission Notre-Dame.
Emmanuel Macron veut que la cathédrale soit reconstruite au plus tard en 2024. Année, tiens, des JO en France. Alors, le sport mondial met la main à la poche. Le Comité international olympique annonce 500 000 euros de dons du côté de l'organisation française de Paris 2024. Le patron Tony Estanguet annonce la tenue en juin d'une course baptisée Run des héros. Là, c'est en faveur des pompiers, le principe de l'argent pour chaque kilomètre parcouru réservé aux œuvres sociales des pompiers.
Et c'est vrai que nous, notre concept d'organiser les Jeux dans des endroits iconiques comme le château de Versailles, au pied de la tour Eiffel, au Grand Palais, aux Invalides. Et forcément, aujourd'hui, on avait envie, parce qu'on va utiliser le patrimoine français pour organiser les Jeux, on a envie de se mobiliser aussi, nous, et notamment aux côtés des sapeurs-pompiers, parce que pour nous, les sapeurs-pompiers sont un peu les héros de la semaine. Le clin d'œil, c'est de dire qu'on va se mobiliser, on va courir, essayer de récolter des fonds et le reverser à cette association des sapeurs-pompiers.
Tony Estanguet au micro Europe 1 de Corinne Boulou. Le foot, Francfort-Chelsea et Arsenal-Valence, ce sont les demi-finales de la Ligue Europa. Francfort a éliminé Benfica 2-0 et on retiendra hier soir deux buteurs français, un but chacun. Olivier Giroud lors de la victoire 4-3 de Chelsea contre le Slavia Prague. Alexandre Lacazette a offert à Arsenal le succès 1-0 à Naples. Ce soir, Ligue 1 et Lyon, c'est l'Olympique du Nez en ce moment. Trois récents matchs, trois défaites. L'entraîneur Bruno Genesio va partir, mais avant, il doit assurer la troisième place du classement, synonyme de Ligue des Champions l'année prochaine. Lyon-Angers, match avancé de la 33e journée, 20h45, 19h, Dijon-Rennes, suite des matchs demain et dimanche, avec notamment PSG-Monaco, pour peut-être l'officialisation du titre de champion de France du PSG.
Peut-être. Également peut-être. Demain et dimanche, le grand rendez-vous de l'équipe de France féminine de tennis.
France-Roumanie sur la terre battue intérieure de Rouen pour une place en finale de la Fed Cup. Garcia Mladenovic-Cornet toute contre la puissante roumaine numéro 2 mondiale Simona Halep. L'ancienne bleue Marion Bartoli a accordé un entretien à Europe 1. Les Bleus, dit-elle, ne seront pas favorites.
Arriver à prendre deux points pour arriver au double décisif, ça va être bien sûr une tâche extrêmement difficile, mais la beauté de la Fed Cup le rend possible.
Marion Bartoli au micro Europe 1 de Jean-François Pérez. Tirage au sort des matchs ce midi, deux premiers simples demain à partir de 13h30. Il n'y a plus de Français au tournoi de Monte Carlo après hier. L'élimination de Pierre-Hugues Herbert en huitième de finale, sorti par le Croate Coric, 13e mondial. Djokovic et Nadal sont eux facilement passés en quart de finale. Un rendez-vous dimanche sur Europe 1. L'un des agents les plus influents du foot français, Jean-Pierre Bernès, face aux auditeurs comme tous les mois sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h autour de Lionel Rousseau.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Nom Zidane, prénom Théo. Le troisième fils de Zizou, 16 ans, milieu de terrain, jouera avec l'équipe de France des moins de 17 ans le championnat d'Europe. Il a été sélectionné hier pour la compétition prévue le mois prochain en Irlande.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, nous accueillons Fabrice Dalméda, historien de renom, mais surtout homme lucide. Fabrice, s'il vous plaît, histoire de crever l'abcès d'entrée. Je suis sûr qu'en réfléchissant bien, vous pouvez vous-même trouver le son que je vous ressortirai un jour sorti de son contexte et qui égratignera fortement votre image de Dandy Intello.
Tout sur le clitoris.
Voilà, attention Fabrice, ça peut sortir à n'importe quel moment. On passe
Europe
à votre chronique.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour mon cher Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
En Grande-Bretagne, on prépare l'anniversaire de la reine Elisabeth. Ce dimanche, elle fêtera ses 93 ans. C'est un record historique, ça.
Ben oui, c'est la reine de tous les records. Elle détient le règne le plus long de la couronne britannique, avec 67 ans, 2 mois et 13 jours. Elle est actuellement la souveraine et la chef d'État la plus âgée au monde. C'est un monument vivant qui a connu la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, la guerre des Malouines, les attentats de l'IRA. Elle a enterré Churchill en 1965, Margaret Thatcher en 2013. Elle a rencontré nos présidents De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac et des stars, sans compter. Pourtant, rien ne la prédestine à cela.
Quelle était sa place dans sa famille à la naissance?
Quand elle naît, par césarienne, le 21 avril 1926 à 2h40 du matin à Londres, elle est troisième dans l'ordre de succession. C'est son oncle Édouard qui devrait régner en cas de mort de George V, son grand-père. Mais, À peine monté sur le trône, Édouard abdique et cède la place à son frère, Georges VI, le père d'Élisabeth. Et la voici, à 9 ans, première héritière de la couronne. Cela a changé son existence, cela lui a même donné une deuxième date d'anniversaire.
C'est-à-dire ?
Ben oui, depuis 1748, les rois ont deux anniversaires. Celui officiel, toujours célébré en juin pour avoir beau temps, c'est le jour du salut aux couleurs, le Trooping des Colors avec les coups de canon et le God Save the Queen. Alors ce jour-là, la reine passe en revue les troupes de la garde. Cette année, ce sera le 8 juin. Mais le vrai anniversaire, le 21 avril, est fêté en famille au château de Windsor. Et la reine sortira sans doute pour se rendre à la chapelle avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour célébrer le dimanche de Pâques. À 93 ans, on ne change pas ses habitudes.
Bien sûr. Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font ce matin. C'est une actualité musicale que nous avons choisi de mettre à l'honneur. À 6h20, nous recevons Bertrand Maire, créateur du festival de musique Ina Sound qui se tient à Paris ce week-end. Il a sonné à la bonne porte à Europe 1, comme l'a prouvé notre expert éco Axel de Tarlé l'autre jour. On kiffe grave les musiques électroniques.
Et donc, je vous donne rendez-vous pour l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk.
Mais c'est des trucs de drogués, ça.
À la musique électro, loin des clichés, à suivre.
Bon réveil sur Europe 1, il est 6h17. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
30 ans, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné Abdelkader Merah à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des 2/3. Il a été jugé coupable de complicité des 7 assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed Merah. 23e week-end de mobilisation, les manifestations des Gilets jaunes seront interdites aux abords de Notre-Dame de Paris demain. Les manifestants n'auront pas non plus le droit d'accéder aux Champs-Élysées. Enfin, début des vacances pour la zone C et beaucoup de monde attendu sur les routes, dans les gares et les aéroports pour le week-end de Pâques.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 19 avril. Et l'actualité, c'est aussi un événement ce week-end à Paris. La tenue d'un grand festival de musique électronique samedi et dimanche au Palais Brongniart. Pendant 48 heures, l'ancienne bourse va se transformer en immense scène musicale. Bonjour Bertrand Maire.
Bonjour.
Vous êtes le créateur, le producteur de ce festival Ina Sounds avec Jean-Michel Jarre. 60 artistes sont programmés. Vous dites, ça va être énorme. Quand vous dites énorme, vous voulez dire musicalement plus fort que les musclés à Bercy en 94? En matière d'électro, ça reste quand même, je crois, je me contredirais pas, la référence. Mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, ça va être encore mieux.
Ça va être différent, en tout cas. Ça va être différent.
En quoi ça va consister ?
Ça va consister en une grande manifestation qui va présenter l'influence de la musique électronique en France, un peu dans le lifestyle et dans sa globalité. À l'INA, on a le groupe de recherche musicale, donc c'est les pères fondateurs de la musique électronique. Et en fait, avec ce festival, on veut faire le lien aussi avec la nouvelle scène et puis mettre en avant cette fierté française qui est une création unique mondiale, puisque la musique électro existe grâce à Pierre Schaeffer en France.
Alors justement, j'aimerais bien faire la généalogie de la musique électronique, parce que la musique électro aujourd'hui est partout, hein, on la retrouve dans le rap, dans la pop, partout, mais quelle est la genèse de la musique ? À partir de quand a été inventée, on peut parler de musique électronique ?
Un chercheur, donc, qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a commencé à faire des expérimentations sur le son. Après, ça a donné des bidouillages aussi à partir d'électricité et autres. Il a été intégré à l'INA en 1974. Et depuis, c'est un groupe de recherche et d'expérimentateurs qui sont aussi des compositeurs, qu'on appelle la musique concrète, et qui a développé et initié toute la musique électronique. Donc, je force le trait en disant sans Pierre Schaeffer, il n'y a pas de David Guetta. C'est un peu vrai. C'est une réalité.
Et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont encore sceptiques, je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore aujourd'hui, ouais. La musique électronique est devenue très populaire, mais à ceux qui disent, il n'y a pas d'instrument, ce n'est pas de la musique. Si non. C'est généré par ordinateur, est-ce que c'est quand même, qu'est-ce qu'on peut leur opposer comme argument ?
Aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on met en avant. Il y a toute une scène d'art numérique, il y a toute une scène de création digitale aujourd'hui. Donc, je pense que dans l'esprit des gens, la création, elle a pris toutes sortes de formes. Donc, qu'on parte d'un clavier ou d'un ordinateur, ce qui compte, c'est l'intention créative et l'innovation. Donc, Enfin, je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus.
Qu'est-ce que, concrètement, sur l'événement en lui-même, vous dites qu'il va y avoir, je ne sais pas ce que c'est, un acousmonium au Palais Brongniart ce week-end. Qu'est-ce que c'est que l'acousmonium ?
L'acousmonium, c'est une fierté maison, si je puis dire. C'est un jardin d'enceinte que nous avons à l'INA et qu'on installera dans un des grands salons du Palais Brongniart et qui permet vraiment une expérience immersive de musique électronique et qui permettra une écoute un peu particulière de musique un peu plus expérimentale.
Est-ce qu'il y aura une chasse aux œufs dans ce jardin d'enceinte, parce que ça pourrait être intéressant.
Et tout à fait, j'avais prévu ça.
Combiner les deux événements.
Eva.
Vous parliez de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, il vient de fêter ses 50 ans de carrière. Quel est son apport pour vous dans l'histoire de la musique électro ?
Ah ben Jean-Michel Jarre, qui justement était aussi formé par Pierre Schaeffer et qui après a pris son envol, c'est un des plus grands ambassadeurs et un des plus gros créateurs. Il a innové dans énormément de choses. Il a fait les plus gros concerts de musique électronique. Il avait 3 millions de personnes, je crois, à Moscou, 1 million à Houston. Il a créé les grands shows numériques et digitaux qui aujourd'hui inspirent toute la scène électro. Et ça a été le grand défricheur et le grand innovateur.
On écoute Jean-Michel Jarre, Equinox Infinity. On connaît bien la patte de Jean-Michel Jarre.
Pourquoi vous avez choisi ce morceau, Bertrand Maire ?
Parce qu'il est très emblématique de Jean-Michel. C'est aussi toute la trame de son dernier album. Ça fait 18 mois qu'on collabore ensemble, donc on en a beaucoup parlé. J'ai écouté avec lui, j'ai découvert encore plus la richesse de son univers. Donc voilà, maintenant ça fait partie aussi du mien.
Parmi vos coups de cœur actuels dans la musique électro, il y a aussi ceci. Et là, Céline Acosta se met à groover.
La
à 6h23. Vous nous parlez de ce
Alors,
titre.
Ça, c'est la belle reprise de d'Arnaud Robotini qui sera sur la scène de la Grande Nef pendant le festival Inasound, qui a eu le César pour cette BO du film 120 battements, qui est aussi un compagnon de l'INA puisqu'on a fait déjà pas mal de choses ensemble et qui est vraiment ce personnage emblématique qui travaille avec d'anciens synthétiseurs, qui crée de nouvelles musiques justement dont on parlait à partir d'équipements autant anciens que modernes.
Est-ce qu'il y a une French touch dans la musique électronique ? Enfin, moi qui ne connais pas grand-chose, quand même de Laurent Garnier à Daft Punk, on a l'impression qu'on est un peu les meilleurs dans le... Enfin, peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, on est pionniers, non, en France ?
On est pionniers, oui, c'est exactement ça, et c'est ce qu'on veut raconter. Laurent Garnier, qui d'ailleurs a fait la bande de l'Expo Electro à la Philharmonie de Paris, et c'est pas un hasard s'il y a deux grosses institutions culturelles, finalement, qui font aussi un événement autour de la musique électronique en même temps, c'est assez rigolo. C'est plus que c'est dans l'air du temps, c'est que c'est une conséquence de ces 40 ans de création. Aujourd'hui, la musique électronique, elle prend ses lettres de noblesse. Des gens comme Laurent Garnier sont extrêmement sollicités, incarnent vraiment, il y en a plein, les fonds d'archives de l'INA, des gens de la musique électro, incarnent vraiment ça, et c'est une vraie fierté française.
Eva, je sens que vous brûlez d'envie de demander des passes pour ce festival.
Oui, d'abord pour aller voir le festival, effectivement. Mais est-ce que vous avez une idée de à quoi ressemblera la musique électro dans 10 ans ?
Alors ça, c'est... Super question. Et d'ailleurs, Jean-Michel y répondra sur scène parce qu'il a des idées très précises et on en parlera en public le samedi soir. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui va générer de nouvelles choses. En fait, la musique électronique, elle évolue avec l'équipement et le matériel en permanence. C'est la différence avec des musiques plus classiques. Donc, c'est un peu compliqué de dire ce que ce sera dans le futur, mais on peut croire que l'intelligence artificielle aura forcément une grosse influence. Après, on voit des jeunes DJ qui font de la musique dans leur chambre et qui créent des trucs magnifiques, donc toutes les pistes sont possibles.
Alors, il n'y a pas que les robots qui composent. On termine avec un autre de vos coups de cœur actuels. C'est Sarah Singer. Ça groove aussi pas mal, ça.
Ah, hein. J'aime bien ça.
Ça donne envie d'être déjà en week-end, Eva.
Ouais.
On n'est pas loin.
C'est une artiste française aussi ?
Artiste française.
Cocorico encore.
Vainqueur du BPM Contest 2016 et qui sort son EP aujourd'hui, Go Back. Et c'est une découverte innocente et c'est un des talents qui sera sur scène.
Qui sera là aussi sur scène. J'ai l'impression que tout le monde sera sur scène ce week-end.
Ben, on essaye d'avoir,
la fine fleur de l'électro.
On essaye d'avoir le top de l'électro sur scène ce week-end.
Tous à Paris, donc ce week-end. Merci Bertrand Maire. On rappelle que vous êtes le créateur et producteur de ce festival Innocent qui se tient demain et dimanche au Palais Brongniart à Paris. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez avec le journal du flamboyant David Doucan et puis la météo avec une journée estivale avec soleil et chaleur.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur ce qui vous attend du côté du ciel. Aujourd'hui, c'est une belle journée avec du soleil et des températures estivales.
Oui, ce que vous disiez, puisque la moyenne va de 19 à 26 degrés cet après-midi. On attend 20 degrés à Cherbourg, à Montpellier, 22 à Strasbourg, à Auch, 24 à Paris et Tours, jusqu'à 25 à Lyon ou Bourges, 26 à Cognac et même 27 à Limoges. Ce matin, c'est assez doux. Hein. La moyenne va de 10 à 18 degrés du nord au sud. C'est un peu plus frais dans le nord-est, avec 6 à 9 degrés en moyenne.
Oui, Céline. Et côté ciel, mais pas pour du soleil, mais pas pour tout le monde.
Oui,
c'est ça, le problème.
Un petit peu couvert ce matin, de l'Aquitaine à la région Midi-Pyrénées. Cet après-midi, c'est dans le nord-est que les nuages vont apparaître, avec quelques averses, des averses qui pourraient tourner à l'orage entre les Vosges et le Jura, averses qui pourraient même déborder sur l'est de l'Île-de-France en toute fin de journée, en début de soirée. Pour tous les autres, c'est le soleil donc qui l'emporte, avec dans l'après-midi toujours un petit peu plus de nuages dans le sud-ouest. C'est un vent d'autant qui sera encore aussi fort qu'hier, puisque les rafales pourront grimper jusqu'à 100 km à l'heure.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, votre secret bonne humeur pour surmonter les affres de l'actu, grâce notamment à l'entrain et au talent de mes fidèles choristes Linda Costa et Eva Rock, qui hier rendaient le plus beau des hommages à celui qui certainement aurait été très touché, au regretté Michel Legrand, le tout sous l'œil, on va dire, dubitatif de David Doucan, le présentateur du journal de 6h30.
Je suis pas sûr de ça, je suis pas entièrement sûr de ça, Mathieu.
Pour ne rien vous cacher, David, moi non plus. Eux, en revanche, j'en suis entièrement sûr, je m'en porte garant. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent et ce matin, on zoomera sur François-Xavier Bellamy, la divine surprise de la droite.
Bof.
Il va ne donner pas votre avis avant.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin David.
Supprimer l'ENA, démago pour les uns, bienvenue pour les autres et coup de bambou pour les candidats au concours. Apprendre par cœur le droit public et le code des impôts pour une école amenée à disparaître, c'est dur. 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté, Abdelkader Mera, le frère du terroriste de Toulouse et Montauban, a été reconnu coupable de complicité. Le verdict de la cour d'appel de Paris est tombé hier soir. Demain, c'est le 23e samedi de mobilisation. Vigilance maximale, on craint le retour des groupes ultra-violents.
Ah, vigilance maximale, non mais c'est vrai.
Vous êtes insupportable, même si on anticipe qu'ils seront moins nombreux que le 16 mars dernier. Notre-Dame de Paris, coïncidence troublante, l'entreprise chargée des travaux avait été impliquée.
Ah non, là, il faut pas rire.
Mais Mathieu, c'est de votre faute, donc.
Oui, c'est vrai, pardon, elle a été
impliquée. Donner un petit coup de main quand même.
Effectivement, l'entreprise chargée des travaux avait déjà été impliquée dans un départ de feu sur un autre chantier il y a 2 semaines.
Merci à vous.
Europe 1.
Le président de la République devait en faire l'annonce lundi dernier. Son allocution était enregistrée, elle n'a jamais été diffusée pour cause d'incendie à Notre-Dame, mais le projet figurait bien dans l'intervention d'Emmanuel Macron, supprimer l'ENA. Pour entrer à l'École nationale d'administration, il y a un concours parmi les plus difficiles. Le préparer est un investissement total pour des étudiants dont la vie devient monacale. Alors cette annonce, c'est un coup dur pour eux. Reportage au sein de la prépa de l'Université Paris 1, François Geffrier.
Ça fait des années qu'elle en rêve, des mois qu'elle prépare le concours. À la sortie d'un amphithéâtre surchauffé, Éléonore, 29 ans, se désole de la possible suppression de l'ENA.
C'est quelque chose de difficile à préparer. Il y a des gens qui font des prêts, il y a des gens qui retournent chez leurs parents. Si l'école est supprimée, c'est pas seulement qu'on va pas pouvoir y aller. La plupart des gens le préparent par passion.
Arnaud, 28 ans, originaire de Grenoble, est plus confiant.
Potentiellement, si une suppression est actée, on passera à travers les gouttes. On pourrait être quelque part les derniers de cet ancien monde, entre guillemets.
À 25 ans, Benoît veut prouver qu'on peut être énarque en gardant les pieds sur terre.
Étant fils de paysan et de femme de ménage, c'est assez difficile d'être déconnecté de la réalité. Ici, on est en fin de parcours, l'écrémage a déjà été fait.
Leur professeur de questions contemporaines, lui-même sorti de l'ENA en 92, Arnaud Tessier, défend leur sincérité.
Tous ceux qui sont là ont la vocation du service public parce qu'ils se rendent compte que la société est malade et qu'on a besoin de fonctionnaires bien formés et engagés.
Dans 4 mois, ces étudiants passeront les épreuves de l'ENA ou bien seront en vacances forcées si le concours était annulé.
François Geffrier pour Europe 1. 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Abdelkader Mera a été reconnu coupable de complicité, complice donc des assassinats perpétrés par son frère Mohamed Mera. En 2012, à Toulouse et Montauban, la cour d'appel a dédié le jugement en première instance qui avait écarté ce chef de complicité. Depuis plusieurs semaines, les autorités craignent le pire pour demain, 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et la promesse sur les réseaux sociaux d'un ultimatum 2. Le premier du genre, c'était le 16 mars et les Champs-Élysées s'étaient embrasés. Mais à quelques heures de ce nouveau samedi jaune, les experts anticipent finalement une mobilisation moins forte que prévue. Guillaume Bier.
Il y aura très certainement de la casse demain, mais de moindre ampleur que lors de l'ultimatum 1 le 16 mars dernier. Car d'après des sources policières, une partie des activistes les plus violents aurait choisi de se réserver pour mieux frapper le 1er mai. Ces casseurs d'ultra-gauche, depuis la fin de l'année dernière, se mêlent habilement aux actions des Gilets jaunes dans une certaine convergence de moyens, analyse un policier. D'un côté, les professionnels de la casse, tendance anarcho-zadiste, ont pu aider des Gilets jaunes radicaux à s'aguerrir. De l'autre, ces mêmes ultras profitent des manifestations pour se mêler à la foule et commettre des exactions violentes. Mais sur le fond, leurs idéologies sont bien éloignées, estime un spécialiste. Les militants d'ultra-gauche ne partagent pas les combats de ces gilets jaunes pro-voiture et qui veulent surtout plus de pouvoir d'achat pour vivre mieux et consommer plus. Aux antipodes de l'ultra-gauche, qui ne parvient pas à influer sur des gilets jaunes en perpétuel désaccord et qui refusent toute récupération, un mouvement sans réelle idéologie fondé sur une multitude de colères et autant de revendications.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Deux élèves d'une école primaire près de Montauban ont été grièvement blessés hier. Un arbre de la cour de récréation est tombé sur trois jeunes enfants. L'un a réussi à sortir seul, mais les deux autres sont à l'hôpital en urgence absolue. Les suites de l'incendie de Notre-Dame avec un élément troublant. On apprend que l'entreprise Lebras, qui installait l'échafaudage sur la cathédrale, a déjà subi un incendie il y a deux semaines sur un autre chantier, celui d'une MJC à Verdun. Explication de Mathieu Bock.
Là aussi, les ouvriers avaient déjà quitté le chantier. Le feu a pris vers 19h50 entre les planches du toit de cette MJC en construction. Alertés par un passant, les pompiers sont arrivés très vite et ont éteint les flammes en quelques minutes seulement. Au total, seuls 2 mètres carrés ont été détruits. Rapidement, les experts concluent que c'est un feu à combustion lente qui a provoqué cet incendie, c'est-à-dire qu'il peut couver plusieurs heures avant de dégager de la fumée ou des flammes. Un cadre de l'entreprise Lebras nous a confié que ce genre d'incendie est ordinaire, que c'est même un non-événement sur un chantier classique et qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec ce qui est survenu à Notre-Dame. Les causes de l'incendie de cette MJC sont toujours inconnues pour le moment, mais l'entreprise a quand même décidé de prendre en charge les frais de remise en état du chantier.
Mathieu Bock pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, la mobilisation du peuple algérien ne faiblit pas avec des conséquences sur l'économie du pays. À tout de suite.
Il est 6h35. Europe 1. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David de Caen, c'est jour de manifestation aujourd'hui en Algérie.
Oui, pour le 9e vendredi consécutif, le bras de fer continue entre la société civile et le système Bouteflika qui s'accroche. Et avec cette incertitude politique, un danger guette l'économie algérienne. Écoutez cette enquête du correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine.
Comme chaque matin, il inspecte son usine. Slima Otmani est le plus grand producteur de boissons en Algérie. Depuis le début des manifestations anti-pouvoir, il constate une baisse de son chiffre d'affaires.
L'entreprise, on ne devrait pas la sentir aussi menacée, mais les incertitudes politiques font que nos fournisseurs internationaux expriment de vives inquiétudes parce qu'il y a un réel ralentissement de l'économie.
Le ralentissement économique était prévisible pour l'économiste Mostafa Mikidesh.
C'est le fait qu'on n'a pas séparé entre l'argent et la politique. Et ça doit être un des éléments de réforme immédiate pour que les prochaines élections liquident totalement cette confusion des gens.
Ils sont une dizaine de chefs d'entreprise frappés d'une interdiction de sortie du territoire algérien. Parmi eux, Ali Hdad, il était à la tête de la première entreprise du BTP algérien. Désormais emprisonné, c'est Amran Alesh qui le remplace.
Le groupe n'échappe pas évidemment à cette invective contre les entreprises privées. Aujourd'hui, nous avons entamé un plan social. Nous ne sommes pas les seuls qui vont avoir à le faire parce qu'aujourd'hui, le secteur du BTP, c'est le secteur le plus touché.
En quelques mois, le secteur du BTP a perdu plus de 170 000 emplois. L'instabilité politique tend désormais vers une crise sociale.
Le correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine, une femme de 29 ans, a été tuée cette nuit à Londonderry, en Irlande du Nord, selon plusieurs journalistes présents sur place. Il s'agit d'une reporter qui couvrait des affrontements avec échange de tirs. La police a annoncé traiter cet événement comme un incident terroriste. Prenons maintenant, Mathieu, la direction du printemps de Bourges, avec un moment émouvant. Hier soir, les enfants de Jacques Higelin ont offert un concert en hommage à leur père disparu l'année dernière. Reportage Diane Genouda.
Ce beau duo d'Isia et Arthur H qui chantent main dans la main pour célébrer leur père. Et l'émotion intense d'Isia qui reprend la balade écrite pour elle par son père. Mais il y a de la joie quand même. Les amis sont là, ils chantent Higelin comme Camille et Jeanne.
Sur la terre comme au ciel, tête en l'air, amoureux.
Isia danse, la salle est debout, tape des mains.
Bah, l'émotion, hein.
forcément, c'est un bel hommage qu'ils ont fait à leur père, et puis bon, ça me rappelle les souvenirs. J'avais eu les larmes aux yeux.
C'était vachement émouvant, oui. Mais je m'attendais à ce que ça soit une essoreuse émotion. Oui, j'ai pas été déçu, c'est très fort. Très fort pour quelqu'un comme moi qui écoute Higelin depuis toujours.
J'entends les rumeurs de la ville.
Et oui, il y a de la joie à chanter ces chansons pour les enfants d'Higelin.
De toute façon, il aurait adoré qu'on chante ces chansons pendant une heure et demie.
Il faut que ce soit la vie en mouvement et on célèbre quelqu'un qui a été très très vivant. Donc ouais. Voilà, c'est ça.
À Bourges, Diane Chénouda, Europe 1.
Le Printemps de Bourges, c'est jusqu'à dimanche, le festival de musique.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste virtuose, que certains collègues, certainement jaloux de son talent, décrivent comme soupolé, ah bon, voire, pour les plus jaloux, mégalomane angoissé à l'idée qu'on ne parle pas de lui. Oh, quel portrait injuste! C'est tout l'inverse, comme on le découvrait hier hors antenne.
Je constate qu'il n'y a pas de vanne sur moi à la fin du journal. Donc, excuse-moi, est-ce que tu te fous de ma gueule?
Mais je me tire.
La prochaine fois que vous me faites ce coup-là, je me barre.
Oui, mais je coule pas, David. Mais ce matin, vous avez vu, il y avait une vanne sur vous. Permettez qu'on passe à la météo?
Oui, éventuellement.
Bon, mais sans enthousiasme particulier.
Oh,
pourtant, vous avez tort. Du soleil pour le week-end de Pâques.
Voilà. Bonne nouvelle, ça.
Oui, c'est bien.
Bah alors.
Allez-y, procédez, parce que vraiment.
Procédez.
Du soleil pour la plupart, en tout cas. Là où ce sera plus mitigé, merci, au revoir. Là où ce sera plus mitigé, c'est demain.
Bonjour,
samedi. Mangez du chocolat, ça rend aimable. Demain samedi, comme prévu sur le centre-est, entre le massif central, le sud de la Bourgogne, la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté, là on pourra avoir des averses, voire des orages. Pour dimanche, c'est la moitié sud qui aura un petit peu plus de nuages avec des averses sur les Pyrénées et les côtes méditerranéennes. Partout ailleurs, le soleil brillera comme aujourd'hui avec ce début de perturbation sur le nord-est qu'on va retrouver donc demain sur le centre-est. Et les températures, elles sont estivales, elles vont le rester tout le week-end. Aujourd'hui, la moyenne va de 19 à 27 degrés.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin avec acuité, sans langue de bois, les trois fantastiques éclairent votre lanterne. Aujourd'hui, Aurélie Herbemont dressera le portrait de l'homme qui monte à droite, François-Xavier Bellamy.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
23e samedi de mobilisation. Demain, les autorités se préparent au retour de groupuscules violents. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de toute manifestation sur les Champs-Élysées aux abords de Notre-Dame de Paris. Deux élèves d'une école primaire près de Montauban ont été grièvement blessés hier. Un arbre de la cour de récréation est tombé sur trois jeunes enfants. L'un a réussi à sortir seul, mais les deux autres sont à l'hôpital en urgence absolue. Enfin, 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Abdelkader Merah a été reconnu coupable de complicité, complice donc des assassinats perpétrés par son frère Mohamed Merah en 2012 à Toulouse et Montauban. La cour d'appel a donc dédié le jugement en première instance qui avait écarté ce chef de complicité.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous vous sentez parfois égaré dans les dédales de l'actu, vous attendez une main secourable, je vous en offre trois. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie. Et ce matin, elle remplace Mickaël Darmon pour la politique, Aurélie Herbemont. Bonjour Aurélie.
Bonjour Mathieu.
Je ne vous cache pas qu'Axel est tout perdu. Il forme en effet avec Mickaël un duo si complice que d'aucuns les ont surnommés Pipo et Mario. Toujours à se taquiner pour le meilleur et pour le rire.
Non mais c'est pas dès qu'il y a un truc qui fait nation, comme on dit, il est là.
Attention comment tu prononces ça. Hein.
Qui fait nation.
Les canailloux, 24 heures après. Commençons, reprenons notre sérieux, commençons justement, Aurélie, par vous et la politique. La campagne des européennes reprend progressivement après la pause post-incendie de Notre-Dame, notamment chez les Républicains, qui avaient annulé le meeting de lancement prévu mardi dernier à Nîmes. François-Xavier Bellamy est reparti en campagne hier. Le philosophe qui a commencé en étant contesté chez les Républicains, mais au final... Les élus sont séduits.
Ah oui, certains l'appellent aujourd'hui la divine surprise. Pourtant, entre François-Xavier Bellamy et son camp, ça partait mal, très mal. Petit résumé des amabilités du début, trop cato, trop réac, pas ma cam, pas ma droite. Mais les réfractaires se sont convertis au style Bellamy. Gérard Larcher, souvenez-vous, il disait qu'il ne cochait pas toutes les cases. Eh bien désormais, il vante ses qualités, il a du talent, il ne la joue pas perso, confie-t-il. Le président du Sénat devait être présent au meeting annulé mardi. Eh bien il s'est arrangé pour être là, ce sera mardi prochain à Caen pour ce qui sera finalement le vrai meeting de lancement de la campagne. Autre ancien sceptique, Christian Jacob, qui loue maintenant le côté bienveillant de François-Xavier Bellamy. Les députés LR se l'arrachent pour le faire venir dans leur circonscription, car François-Xavier Bellamy fait un carton chez les militants. Alors toute cette bienveillance soudaine qui, reconnaissons-le, est assez rare à droite. Ça fait sourire l'équipe de Laurent Wauquiez. Un de ses proches le dit, tous ces gens voient bien les sondages. 8% en décembre, aujourd'hui 13, voire 14, avec les 15 en ligne de mire.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez.
Ah oui, parce que Bellamy, c'est son choix. Wauquiez a intérêt à ce qu'il réussisse, sinon ses amis désigneront le responsable du flop, lui et personne d'autre. Les proches de Laurent Wauquiez comptent sur ces européennes pour affermir sa place de leader de LR en faisant émerger une génération Wauquiez, des nouvelles têtes qui passent bien à droite, comme François-Xavier Bellamy autour de lui, avec une arrière-pensée. Préparer son écurie pour la présidentielle de 2022.
Mais j'ai une question bonus, Aurélie. Est-ce que ce Bellamy ne risque pas de doubler par la droite, si telle chose est possible, Laurent Wauquiez ?
Alors, certains vous disent
que
oui.
C'est une bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez, mais moi, si j'étais Laurent Wauquiez, je m'inquiète.
Non, chez Laurent Wauquiez, on vous dit, soit on perd ensemble, soit on gagne ensemble. C'est une opportunité
c'est ce
plus qu'un danger.
C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à François
Hollande. Après, la politique, vous savez comment c'est. Hein.
Ah oui. Merci beaucoup, Aurélie, pour cette analyse politique. Axel de Tarlé, on passe à l'économie. Danone devient seul maître à bord de la marque Michel et Augustin, dont ils possèdent désormais 95%. Est-ce qu'ils vont continuer à faire leur bonne mousse au chocolat ?
Mathieu, ça suffit.
Ah oui, oui. Ils n'ont pas changé la recette de la mousse au chocolat.
Et alors c'est vrai que ce n'est pas du tout light, mais ils le revendiquent. Hein. Ce qui est bon n'est pas forcément light. Nous, on est dans le plaisir, on n'est pas dans le fitness. Alors,
c'est tout bon.
Pourquoi est-ce que Danone, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que Danone, comme ça, prend le contrôle, alors que Danone, c'est un géant, prend le contrôle d'une petite marque ? Eh bien, en fait, c'est un problème marketing. Danone, comme toutes les grandes marques, a un problème de fond. Figurez-vous que les gens ont de moins en moins confiance dans les grandes marques et ils préfèrent les petites marques locales et régionales, et c'est même documenté.
Mais si vous leur dites ce matin que c'est Danone, en fait,
quand même, on a l'impression d'acheter une petite marque locale, on n'a pas l'impression d'acheter la multinationale. Donc c'est documenté, je vous dis, l'Institut Kantar a fait un sondage, 92% des gens disent avoir confiance dans les marques régionales et locales, en revanche, c'est en hausse de 22% sur 5 ans. En revanche, les grandes marques internationales ne séduisent plus que 56% des sondés, et c'est 37% de moins par rapport à 5 ans. Et donc, comme le client est roi, eh bien les grandes marques les grands groupes mettent en avant des petites marques régionales. Donc c'est Danone qui met en avant Michel et Augustin, et aussi, je ne sais pas si vous connaissez les deux vaches.
Bien sûr.
Oui, parce que si vous voulez, quand on vend Michel Augustin, on ne met pas Danone en énorme, on le cache Danone, parce que les gens n'ont pas confiance. Mais c'est même L'Oréal, par exemple, qui met en avant, qui a lancé une nouvelle ligne. Alors personne ne doute que c'est L'Oréal, mais ça s'appelle la Provençale Bio. Vous
voyez, c'est L'Oréal.
Voilà, la Provençale, on se dit, c'est de Marseille, pas du tout.
C'est comme le Petit Marseillais, le Petit Marseillais.
Voilà, c'est L'Oréal. Mais alors, le roi, parce que, alors évidemment, quand on pense multinationale, quelle est la big corporation ? C'est Coca-Cola. Alors là, Coca-Cola, c'est un festival de petites marques insoupçonnées, tellement insoupçonnées qu'on ne les connaît pas. Alors vous avez par exemple le thé glacé Honest, c'est Coca-Cola.
Ça c'est quand même très malin, parce que Honest, moi je pensais que c'était un petit producteur local réservé à un marché bobo.
Atlanta.
D'accord, très bien.
Nesty, Chauffontaine, Finlay, c'est de l'eau pétillante en fruits. Hawaii, vous avez toutes les boissons énergisantes aussi. Jamais ils mettent Coca-Cola, Burn, Energy, voilà. Et puis j'aime bien parce que c'est l'occasion de citer tous mes sponsors.
Oui, voilà,
vous qui me le reprochez suffisamment. Voilà, ce matin j'en ai cité un.
Un paquet. Oui, allez pouvoir vous offrir de belles vacances, Axel de Tarlé. Merci beaucoup. Eva Roque, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Alors, fin de semaine riche et éclectique sur vos écrans de télé. J'ai sélectionné 3 programmes pour vous, à commencer par un documentaire qui est diffusé dimanche soir sur Arte à la suite du film La Tunique. C'est un péplum de 1953 avec Richard Burton. Les années 50, d'ailleurs, constituent l'âge d'or de ce genre cinématographique qui revient en fait dans l'histoire du 7e art à peu près tous les 20 ans. On le croyait enterré. Et puis, souvenez-vous, en 2000, Ridley Scott mettait en scène Russell Crowe dans la peau du gladiateur Maxime. Et bien c'est toute cette histoire que vous pourrez découvrir dans ce documentaire intitulé, écoutez bien, Péplum, muscles, glaives et fantasmes. Allez, petit point historique.
La foule va réclamer la mort du vaincu, mais c'est au cinéma. Hein. Chaque fois que vous voyez un péplum avec des gens qui mettent le pouce en bas, c'est poliqué verso, qui signifie la mise à mort. C'est faux, ça n'a jamais existé. C'est l'empereur ou celui qui paie les jeux qui a le droit de dire on vit ou on vit pas.
C'est un très bon documentaire qui est riche en anecdotes et analyses politiques, parce que oui, vous allez le comprendre, le péplum est aussi un objet politique. Et puis juste avant, dimanche à 21h sur France 2, on va vous aider à muscler vos zygomatiques.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Oh, c'est moi. Bon, Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est. Comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention.
Je n'ose pas vous demander le titre du film.
Bah, c'est un débrief de notre émission, non ça,
exactement.
C'est le débrief qu'on fait après.
C'est ça. La Grande Vadrouille, 10525e diffusion, je pense. Non, je ne sais pas. Mais on ne s'en lasse pas. Et comme en plus, c'est encore les vacances scolaires pour certains élèves, ce n'est jamais désagréable de rire avec Bourville et Louis de Funès. Et puis, de toute façon, La Grande Vadrouille, ça fait partie du patrimoine. Patrimoine comme Notre-Dame. Et je vous en parle parce que Notre-Dame sera au cœur de la soirée de France 2 demain soir, samedi. Une émission présentée par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacaro depuis la Cour des Invalides, avec pour objectif évidemment de collecter des dons en vue de la restauration du monument. Parmi les artistes attendus, Laurent Voulzy, le violoncelliste Gauthier Capuçon, le pianiste Lang Lang, Benabar, Chimène Badi, Mireille Mathieu, ou encore cette merveilleuse chanteuse qui enchantait le plateau du Grand Échiquier, c'était il y a quelques jours, Angélique Kidjo.
C'est joli,
et ce sera samedi à partir de 21h sur France 2.
Merci beaucoup Eva Rock, Axel de Tarlet, merci Aurélie Herbemont. Les trois fantastiques sont de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Le week-end se profile pour l'équipe de Debout les copains, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief toujours impartial, toujours bienveillant de la matinale de Nikos Aliagas avec tous vos personnages préférés, Nikos, Jean-Michel Apathy, Martin Fenot en direct de Dieu sait où et bien sûr Laurent Cabrol.
Ouais, je finis ma merguez et je suis à vous là.
Le débrief arrive, accrochez-vous à quelque chose de dur.
Ah ouais.
Non, n'en profitez pas Eva.
Bon réveil, il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève et pour Bibi, c'est plus que le week-end qui se profile, c'est les vacances, à l'instar du présentateur de la matinale d'Europe 1 qui arrive avec son stock de Nobiol préparation au bronzage. Car oui, avec mon poteau Nico Saliagas, on a décidé de breaker. Pour ma part, j'ai choisi, vous me connaissez ma modestie, une retraite en monastère dans le Vercors pour faire le point avec moi-même. Quant à Nikos, il est assez secret sur ses destinations de vacances. En février, seuls quelques proches ont su où il était allé.
En tout cas, il s'amusait et puis il buvait pas que de l'eau, hein, je peux te dire.
Oui, mais ça, c'est la vie privée des gens, Eva, ça ne nous regarde pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Nikos, en votre absence, Céline Dacosta tiendra la baraque. En cette période difficile pour Europe 1, elle a plein d'idées pour relancer la station. Pas vrai, Céline?
Il faut moderniser tout ça. Oui. Un petit toit végétal ou
un truc où les gens peuvent aller pique-niquer. Merde.
Oui, d'accord. Bon, eh ben oui. Alors, Céline, avec Nikos, on vous confie les clés. On compte sur vous pour veiller sur Pierre de Villeneuve et arroser Laurent Cabrol. Surtout, ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur. Si Lolo devient violent avec la pluie, essayez de le raisonner.
Assistons à l'arrivée de la pluie. Oh, elle traîne, je vous le dis, depuis ce matin. J'essaie de la voir, je l'aperçois dans le gosse de Gascogne. J'ai voulu lui donner des coups de pied dans les fesses. Elle veut pas venir.
Essayez de lui dire que donner des coups de pied aux fesses à la pluie ne résoudra rien. Veillez également, Céline, à ce que les journalistes, même les plus impertinents, respectent les jeux de mots habiles disséminés dans nos pubs. Pubs sans lesquels nos salaires ne tomberaient pas. Rappelez-le notamment à David Doucan.
Je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec...
Caroline Métro. Et moi, je m'appelle Jean-Michel Tramway. Pourquoi pas Gertrude Bus, tant qu'on y est.
Des jeux de mots si nombreux et parfois si invraisemblables que certains dépassent même les capacités de compréhension de Nikos.
En ce moment, chez Géant, c'est Pâques, mais pas que.
C'est Pâques, mais pas que.
Ils font fort, là, oui.
J'ai pas compris.
Mais c'est peut-être mieux, oui. N'oubliez pas non plus, Céline, de fermer le bar à Jean-Mich une fois qu'il a terminé son édito.
Ce vieil adage que vous connaissez bien sûr, l'argent public appartient à tout le monde, donc il n'est à personne, donc dépensons-le gaiement. Et vous savez qui est l'auteur de l'adage ?
Vous allez me le dire.
C'est moi.
Embrassez-le pour moi. Je vous laisse avec ma remplaçante, ma doublure, les amis, la performante Eva Rock qui assurera le 5-5 la semaine prochaine. La vraie.
La vraie de vraie.
Prête, Eva ?
Je vais remonter les audiences en 2 mois.
Oui, bah, on va le voir. Déjà, t'as qu'une semaine. Hein. On se calme. Allez, mon avion pour le. Mon Ouibus pour le Vercors est là. Les amis, je vous fais 1000 bisous. Bonnes vacances, Nikos.
Merci, mon capitaine.
Merci à vous, mon amiral. Et pendant vos vacances, révisez vos citations. Je crois qu'hier, vous vous êtes un peu emmêlé les pinceaux.
Oui.
Une entreprise qui a réalisé des affaires à Cuba pourra être poursuivie et condamnée par la justice américaine.
Mais en fait, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, c'est ça ?
Exactement.
C'est un peu ça.
Si les ennemis de vos ennemis sont vos ennemis, bah vous avez de drôles d'amis. Bonnes vacances, Nikos.
Mais vous n'en faites pas partie.
je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas ce que j'espère.
Vous allez dans le Vercors sauter à l'élastique.
Oui, voilà.
Voleur d'enfants, au fond des criques.
Et merci, cher ami.
J'adore cette chanson
dans
15 jours.
Salut, Nikos.
Vous savez quoi ? Ça fait combien d'années qu'on se connaît, Eva Rock ?
Je viens de sortir une vanne et ça fait plus de 10 ans.
12 ans même, je crois.
Oui, c'est possible.
Je vous aime tout autant.
Moi aussi.
C'est beau.
Et encore moins que demain.
Et je sais, faut que, attendez, il faut que ça me monte au cerveau et puis je vais essayer de comprendre cette phrase.
Oui, elle ne bonjour peut pas Céline Dacosta, nous, ça fait pas 12 ans, mais c'est court, mais c'est bon. Hein. Merci beaucoup de m'accompagner.
Ça aurait jamais dû dire ça,
depuis
mais c'est
gentil. La rentrée sur l'antenne d'Europe 1, chers amis. Et je vous souhaite un bon repos. Bon réveil à tous. Ça va, Laurent Cabrol?
Ça va. Oui, mais il va faire bon aujourd'hui. Il va faire
soleil
bon.
À tous les étages, dit le Parisien aujourd'hui en France.
Ah ben, ils ont raison. Soleil, enfin, pas à tous les étages quand même, hein, puisque nous avons, dans certaines régions, un temps souvent orageux, l'Alsace, la Franche-Comté, nous aurons des passages nuageux sur le Midi-Pyrénées, avec ce satané vent d'autan qui est terrible, parce que cela fait 4 jours qu'il dure, à 100 km/h, c'est terrible à supporter, croyez-moi. Le Languedoc, le Roussillon seront concernés par les vents marins, le Béarn et l'Aquitaine également, donc dans ces régions, on ne peut pas parler de grand beau temps. Lorraine, Bourgogne, Alpes du Nord, c'est un ciel lumineux quand même, et puis le grand beau pour l'littoral de la Manche, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Vallée de la Garonne, le Limousin, l'Auvergne, la Provence, la Côte d'Azur, la région parisienne sera pas mal. Et dans toutes ces régions, donc, vous aurez du soleil. Les températures maximales, entre 20 et 27 degrés. 27 à Paris, qui sera la ville la plus chaude, oui.
Et 27 degrés.
Et 20 degrés dans les villes maritimes ou marines, comme Nice, Biarritz, Caen, Narbonne, en bord de mer, en raison des vents, entre 18 et 20 degrés. Oui, mais la moyenne nationale, c'est du 24-25. Hein, oui, 24-25.
C'est magnifique.
C'est très bon pour la saison.
Merci Charles-Laurent Cabrol. À tout à l'heure, on est ensemble jusqu'à 9h. On se retrouvera toutes les demi-heures pour faire un point météo.
Oui, le prochain point juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.